stop you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Justine Dibding, Virginie Leduo et Boris Pinault. L'équipe technique ce soir est composée de Georges Tau, Christophe Michou, Thomas Robin et Franck Malabré. La réalisation signée Daniel Finot. Une dispute très particulière que cette pénultième de la saison. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous sommes installés à la librairie de Paris, place de Clichy, en public, comme nombre d'autres émissions de France Culture l'ont été ce jour, puisque notre chaîne a choisi d'ouvrir largement son antenne afin de ménager le plus d'espace possible pour le livre. C'est le titre choisi pour cette journée spéciale. Ensuite, pas moins de 5 critiques littéraires, et lesquelles, mon tour ce soir. Alexandra Schwarzbrunn, directrice adjointe de la rédaction de Libération, Raphaël Léris, responsable adjointe du Monde des Livres, Elisabeth Philippe, critique et notamment collaboratrice à France Culture et France Musique, Grégoire Leménager, responsable de Bibliops.com, et Philippe Chevillier, chef du service culture du journal Les Échos. Alors, deux d'entre eux sont des disputeurs habituels, vous le savez, on est ravis d'accueillir les nouvelles et le nouveau, qui pourrait aller savoir bien revenir dans cette émission à la rentrée. On en parlera après. Exceptionnellement, pas de petit salon ce soir pour laisser aux 5 critiques le temps de parler de 3 livres. L'Amérique m'inquiète et autres récits de Jean-Paul Dubois, 20 minutes de silence d'Hélène Bessette, Fendre l'armure d'Anna Gavalda, et nous évoquerons aussi très rapidement Un cœur sauvage de Robin MacArthur et La Daronne d'Anne-Laure Kerr. Il y aura quand même des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition aux couleurs, le design au prisme de la couleur. C'est à découvrir jusqu'au 5 novembre au Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux. Et nous ouvrons cette émission avec le livre que vous avez toutes et tous lu, celui de Jean-Paul Dubois, L'Amérique m'inquiète et autres récits, publié dans la collection Ripley, des éditions de l'Olivier. Il faut dire que nous avons eu l'occasion par le passé de lire la plupart de ses textes, puisqu'ils sont le fruit des 72 voyages que l'écrivain, toujours basé à Toulouse, a effectué aux États-Unis de 1990 à 2001, pour y trouver la matière de chronique qu'il a livrée dans ces années-là au Nouvel Observateur. C'était le titre de votre journal hein, à l'époque, Grégoire Leménager. C'était le Nouvel Observateur. 2 volumes de ses chroniques avaient paru déjà à l'Olivier, L'Amérique m'inquiète en 96 et jusque-là tout allait bien en Amérique, c'était en 2002. Les voici réunis et même augmentés d'une préface inédite de l'auteur. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a. Don't you know, talking about a revolution sounds this way. Poor people gonna rise up. Alors peut-être que au risque que l'on puisse soupçonner qu'il pense que tout ce qui se publie dans l'Observateur, nouveau ou pas, forcément génial, j'ai quand même proposé à Grégoire Leménager d'ouvrir cette dispute concernant ce recueil de textes de Jean-Paul Dubois, dont l'auteur remarque lui-même dans cette préface qu'il a rédigée là, il y a quelques mois, que ses récits pourraient être datés, mais ils ne le sont guère. Je cite Dubois, « Cette singulière planète où, à l'époque, l'on fermait déjà les frontières aux Mexicains tout en ouvrant des chaînes de restaurants pour chiens, avait conservé son orbite désaxée, accentuant même sa dérive, jusqu'à ce que l'écrivain qualifie un peu plus loin de nouvelle et déconcertante blondeur présidentielle. Grégoire Leménager, vous êtes, je crois qu'on va pas, on verra, je préjuge, j'allais dire, on va pas se disputer sur Jean-Paul Dubois, mais je sais que vous, en tout cas, tout comme moi, c'est un écrivain qui vous importe.
Bah oui, c'est un romancier formidable. C'était un grand journaliste. Moi, je gardais un bon souvenir des papiers qu'il a fait sur les États-Unis dans le Nouvel Obs à l'époque où j'étais un petit garçon. Et j'en gardais un bon souvenir, voilà. Et puis c'est un romancier que j'apprécie. Et là, donc je m'attendais à trouver ça bien. J'étais content. Voilà. Je m'attendais à retrouver l'humour de Dubois, la fantaisie de Dubois, la singularité de Dubois. Et j'ai pas seulement été content, j'ai été vraiment ébloui par ces reportages qui sont rassemblés là. Et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose. Enfin, ils ont très très bien vieilli et ils permettent de comprendre comment un type aussi raffiné, aussi subtil, aussi altruiste que Donald Trump se retrouve à la tête des États-Unis aujourd'hui. Parce qu'il nous présente, Dubois nous présente une galerie de cinglés, quoi. Enfin, il y a que des dingues dans ce livre. Et ils sont
mais
dingues.
Il ne les cherche pas, il les voit. Il se contente de regarder, hein, Dubois,
ouais,
d'une certaine façon.
Il se contente de regarder, d'écouter, et de tout enregistrer, de prendre des notes. Puis après, il raconte ça à sa manière, avec un dosage très subtil, d'ailleurs, de première personne. Enfin, je trouve qu'il intervient très bien pour suggérer ce qu'il pense, lui, de toutes ces situations. Et donc, ces gens sont des dingues, et ils sont dingues de fric, de sexe et de Dieu, quoi, en gros.
Et savoir comment ça se combine, tout ça, comment ça peut aller ensemble. Voilà. Évidemment, ça détraque d'autant plus.
Et enfin, on rit beaucoup. Et moi, ce à quoi j'ai été très sensible, parce qu'au début, dans sa préface, il s'est pas trop foulé pour la préface, à mon avis. Il l'a écrite vite.
Certes.
Il écrit toujours vite, d'ailleurs. Mais il dit que l'Amérique, c'est pas un pays, c'est un zoo. Où il y a qu'est-ce qu'il dit? C'est sans doute le seul zoo de la planète à laisser errer et divaguer en liberté une pareille variété d'individus exotiques aux idées toxiques et retorses, etc. Et je me disais, bon, ça va être un peu pénible quand même de nous montrer des hommes comme des animaux. Et en fait, ce qui est très fort, c'est qu'il condamne très nettement le système qui produit ces comportements-là. Mais pour les individus eux-mêmes, je trouve qu'il y a toujours un peu d'empathie quand même. Et ça, c'est assez fort. Même les salopards qui font du trafic sur les assurances maladies pour les types qui sont en train de mourir du sida, même pour les dingues qui construisent des abris anti-atomiques. Enfin, il a de l'empathie pour les gens, quoi.
Ouais, ce qui rend que cette lecture, non seulement supportable, mais souvent réjouissante, alors même que ce qu'on y lit, quand même, effectivement, un panorama terrifiant. Raphaël Léris sur Jean-Paul Dubois.
Moi, ce que j'aime particulièrement dans ce recueil qui m'a beaucoup plu, et aussi j'ai appris à lire dans le Nouvel Obs, et j'ai été désespérée en 2004 quand, avec le prix Femina, si je ne m'abuse,
ouais,
il a renoncé
à
travailler à l'Obs. Enfin, vraiment, ça, je me souviens de mon chagrin. Donc j'étais très heureuse. Et en lisant ce livre, de tout ce que dit Grégoire, j'y étais sensible aussi. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai l'impression d'avoir un bloc de temps qui m'a été donné. Le temps que lui passe à chaque fois et dont on sent la texture dans chacun des textes, puisque vraiment, il se pose, il observe et on sent que ça peut pas se choper comme ça, les scènes qu'il raconte, les personnages qu'il voit. Donc il y a ce temps que lui passe à regarder les êtres, à attraper les situations. Et puis il y a le temps au sens de l'époque qu'il restitue. Et comme nous sommes là pour défendre les livres qui sont parus, mais aussi ceux qui vont paraître, il se trouve qu'en préparant l'émission, j'ai lu un livre d'une excellente ancienne journaliste de l'Obs, Isabelle Monin. Et je voudrais vous lire une manière dont elle décrit, je trouve très très bien, les reportages de Dubois.
Je vous en prie.
Elle dit « Et pour apprendre à lire la vie, il y a les reportages de Jean-Paul Dubois. Il est un genre d'orpailleur des non-lieux. Il fouille les alluvions des stations-service, tamise les terres banales, les sèches, les légères et les gluantes, esquivant les tours opérateurs de l'information et cherchant l'actualité où elle n'a pas l'air d'être, dans les interstices des villes, dans les arbres, derrière les temps morts, au fond des non-espaces, partout où aucun journaliste sérieux ne songerait à mettre un orteil. Il fuit la comédie concave des conférences de presse pour aller décrocher le combiné d'une cabine téléphonique du Nevada que des gens du monde entier appellent. Il ramène l'époque dans ses mains, comme l'enfant creuse ses paumes pour rapporter les plus belles billes possibles. Et elle scintille de quelque chose de si vrai, on a parfois envie de pleurer.
Ouais, une belle citation. Voilà. C'est la fête du Nouvel Obs, ou de l'Obs, ça dépend. Parlons un peu de Libération avec Alexandra Schwarzbrunn. Mais plus sérieusement, c'est vrai que Jean-Paul Dubois, moi, comme sans doute beaucoup d'entre vous, a commencé à le lire quand il a commencé à publier dans les années 90, enfin, en tout cas pour moi, Les Poissons me regardent et tous ces livres-là. Et on pouvait avoir l'image d'un écrivain extrêmement doué, virtuose, mais un peu. Peut-être mineur. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un écrivain majeur, mais je pensais que c'était bonifié. Or, quand j'ai lu et découvert pour certaines ses chroniques, je me suis dit, ben non, en fait, tout était déjà là. Est-ce que vous avez ce sentiment, Alexandra Schwarzbrunn ?
Oui, un peu. Mais moi, je pense que la notion de temps est très, très importante, en effet, avec Jean-Paul Dubois. C'est quelqu'un qui il n'y en a plus beaucoup des hommes ou des femmes comme ça qui ont le temps, qui prennent le temps. Hein, on vit dans un monde où tout va extrêmement vite. Et lui, il prend le temps à chaque fois de faire ses reportages, d'écrire. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Vous savez comment ça... Enfin, Grégoire a dit qu'il était tout petit. C'était un petit garçon à l'époque. Mais ça m'a été raconté. Ça m'a été raconté. C'est-à-dire quand il allait... il vivait à Toulouse, donc, hein, quand il bossait pour le Nouvel Obs. Il était tranquille dans sa maison.
Il n'a pas changé, il est toujours là-bas.
Et de temps en temps, tout à coup, il lisait beaucoup des petites annonces, les journaux. Il épluchait les journaux. Il avait une idée, tout à coup, qui lui venait. Il montait à Paris, ou pas, d'ailleurs, où il demandait. Hein, et il disait, voilà, j'ai envie d'aller là et de faire ça. Et on lui disait, bah, écoute, vas-y, tu as tout le temps que tu veux. Le budget, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème de budget. Donc, il faisait ce qu'il voulait. Et je crois que cette liberté-là, cette richesse en termes de temps, ça se sent dans son écriture. C'est-à-dire que chaque phrase est un univers, chaque phrase nous évoque quelque chose, et du coup, je pense que il fonctionne comme ça toujours maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'il prend son temps, il ne fonce pas, il publie pas des bouquins tous les deux ans. Il laisse mûrir dans sa tête, et du coup, c'est pour ça qu'on se régale, parce que quand il écrit, il y a pensé, ça a mûri, et c'est formidable. Et on a l'impression à chaque fois que c'est un petit peu que c'est un peu la même histoire qu'on reprend. Parce qu'il a un univers qu'on reconnaît tout de suite et dans lequel on est bien et qui nous rappelle des choses. Et c'est pour ça que c'est devenu un écrivain majeur, en effet. Alors qu'il est assez absent de la scène
médiatique.
Ah oui, ça,
il n'encombre pas le paysage médiatique. Hein, il est très discret. J'ai eu la chance, il n'y a pas si longtemps, de faire une rencontre avec lui dans une autre très bonne librairie de Paris. Il y a la librairie de Paris, mais il y en a quelques autres. C'est vrai que ça infuse et que ses romans, pour lui, ce qui est important, c'est de les écrire en maximum 28 jours, même s'il en paraît hein, que tous les 3 ou 4 ans. Le temps de l'écriture est très resserré parce qu'il y a effectivement tout ce temps d'imprégnation, d'infusion, de documentation. On sait qu'il raconte hein, d'ailleurs qu'il regardait dans les annuaires s'il y avait toujours un Dubois dans
un
la
Dubois.
Ville où il
formidable
descendait. Forcément, il y en a un toujours, partout dans le monde. Vous avez été grand voyageur aussi pour les Échos avant d'être chef du service culture, Philippe Chevrier, ça m'arrive aux deux, vos deux amours peut-être, celui du voyage et celui de la littérature.
Ben, surtout, je ne relis pas mes articles après ceux de Jean-Paul Dubois. Parce que, ce qui me fascine, c'est que chaque chronique est à la fois captivante et édifiante. C'est-à-dire que ça raconte à chaque fois une chose très forte. Et je pense qu'il y a à la fois cette dimension un peu du nouveau journalisme express, parce qu'en même temps, le fait de faire 72 voyages, de faire 90 nouvelles, il avait du temps et en même temps, pas tant que ça. Et il arrive à nous raconter toute une histoire et tout un pan d'Amérique à chaque fois. Et en même temps, quand finalement, on a l'impression au bout du livre qu'on a lu plus un recueil de nouvelles qu'un un recueil de chroniques. Parce qu'à chaque fois, bah, c'est aussi la dimension du nouveau journaliste qui est de mêler de l'intime, de mêler de soi, de la subjectivité. Mais on sent qu'il arrive à créer des personnages, à les mener jusqu'au bout, à faire des chutes incroyables, à faire des digressions et tout ça dans une petite nouvelle qui est toujours un peu sur le même format. Et du coup, moi qui pensais feuilleter, enfin en lire beaucoup, mais non, j'ai tout lu de A à Z. Et la somme en fait vraiment une histoire d'Amérique qui court donc de 1990 à 2002 et qui... Effectivement, on revient à cette idée que si on l'avait lu pendant les années Obama, on serait dit bon, c'est vraiment la partie la force
c'est l'ancienne
obscure,
Amérique.
C'est l'ancienne Amérique, mais là, on voit qu'on a l'impression qu'elle a gangrené cette partie obscure, toute l'Amérique, une Amérique de tordue, une Amérique blanche plutôt de tordue. Hein, y a pas. Et puis aussi qui nous emmène parfois, il nous parle des problèmes de l'eau, de l'écologie. On a les grands procès, on a des portraits genre de Michael Jackson. Moi, je trouve que c'est un portrait formidable. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livre.
Elisabeth Philippe, qu'on n'a pas encore entendu.
Oui, Philippe parle de gangrène. C'est vrai qu'il y a un côté épidémie de folie dans ce recueil de chroniques. C'est Grégoire parlait du zoo. Enfin, c'est Jean-Paul Dubois qui parle d'un zoo. Moi, je trouve que c'est un immense asile à ciel ouvert. Les États-Unis tels qu'ils les présentent, avec des histoires totalement démentes. Je pense notamment à ce pasteur dans le Colorado qui, dans sa paroisse, crée des tableaux vivants, des péchés. Donc, avec une femme, avec un fœtus ensanglanté. santé, puisque c'est l'avortement, c'est épouvantable. Un homme qui figure un homosexuel dans un cercueil, parce que évidemment l'homosexualité est un péché dont on meurt atrocement. Et il organise des tours, comme ça s'appelle le Hell Tour, dans sa paroisse, et les gens passent de tableau en tableau pour être édifiés. Et surtout, il dit, je suis très heureux qu'ensuite des adolescents viennent me voir et pour me dire merci, grâce à vous, je ne commettrai pas ces péchés. Et dans une des nouvelles qui est consacrée, enfin pardon, pas des nouvelles, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Philippe, on lit ces textes comme des nouvelles, d'autant qu'il y a des personnages récurrents. Et il y a donc une chronique qui est consacrée à Woody Allen au moment du scandale qui éclate à cause de son mariage avec la fille adoptive de Mia Farrow, qui était donc aussi sa fille adoptive. Et Jean-Paul Dubois cite l'écrivain Jay McInerney. Et McInerney, en parlant de Woody Allen, dit « c'est l'Amérique qui lui a été fatale ». Donc l'Amérique comme une maladie. Et je trouve que c'est ce qui court dans tous ces textes, qui sont effectivement formidables. On sent l'effarement quand même de Jean-Paul Dubois, effarement qu'on partage, parce que c'est une forme de road trip comme ça, hallucinée à travers l'Amérique. Et cet effarement, cette hallucination, oui, on la ressent quasiment à chaque page. Et je parlais d'asile à ciel ouvert, comme dans tout asile, il y a même un personnage qui se prend pour Napoléon. Ça, c'est qui se prend pour Napoléon et qui attend la venue des aliens qui devaient venir en 2001. Et jusqu'aux dernières nouvelles, je crois qu'ils ne sont pas.
On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Déjà arrivé. On le saura peut-être plus tard. Raphaël Néris.
Donc on ne sait pas ce qui s'est passé pour les aliens, enfin a priori ils sont pas arrivés, mais en fait je trouve que sur chacune des nouvelles on aimerait savoir ce que sont devenus les personnages qui nous racontent. C'est une espèce de petit deuil qu'on a à la fin, c'est de se dire je ne saurais pas ce qu'est devenu ce médecin qui avait créé une machine pour que les gens puissent se suicider avec son aide mais sans que ce soit un meurtre, et qui est un mec d'un humanisme assez incroyable, et on ne saura jamais ce qu'il est devenu. Et ça c'est des espèces de petits chagrins qui restent à la fin de ces nouvelles, moi ce que je trouve de ces chroniques, ce que je trouve vraiment sidérant, c'est la prégnance du rapport entre la mort et l'argent dans ces textes, plus que, enfin, la folie se joue quand même beaucoup dans la manière dont la mort est marchandisée partout. Voilà.
Alexandra Chardon.
Je me disais que en écoutant Raphaël, ce qui serait formidable, c'est de demander de financer un voyage à Jean-Paul Dubois. Lui demander, en effet, c'est une excellente idée, mais là, c'est peut-être la journaliste qui
oui,
parle.
Oui, je crois, oui. Hein, je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait d'accord.
Non, je ne suis pas sûr non plus.
Il a d'autres projets.
Mais lui demander d'aller de retourner
de
sur
une tondeuse,
ses pas
là,
et de retrouver tous ces gens, ce serait extraordinaire. Et voir aujourd'hui, sous Trump, ce serait formidable.
Par contre, vous pouvez lancer un nouveau journaliste en lui proposant d'aller retrouver les gens qu'avait rencontré Jean-Paul Dubois et la transmission, vrai. Peut-être ouais. aussi. Bon, c'est pas moi le rédac chef ici. Enfin, si, remarquez un petit peu quand même. Mais que dans cette émission. Philippe Chevillé. Alors,
il pourrait faire le tour de l'Amérique en tondeuse aussi, c'est possible.
Ouais. Mais c'est une histoire vraie, ça.
C'est une histoire.
David Lynch.
Et qu'on retrouve dans une nouvelle, d'ailleurs, à la fin, à la toute fin d'un. Ouais. Non, justement, d'ailleurs, cette nouvelle me fait penser. Et je voulais dire que dans cette collection, il n'y a pas seulement de l'horreur et de la noirceur. C'est-à-dire qu'il y a des, quand même, ça vous l'avez abordé, Grégoire, il y a des moments de respiration. Il y a l'histoire de la cabine téléphonique dans le désert où on passe des coups de fil et il y a des gens qui passent et qui décrochent. Il y a l'histoire du type qui vend des terres sur la lune qui c'est parfois très poétique et c'est pas, il y a parfois des doudingues. Il n'y a pas que des cinglés méchants, quoi.
Ça peut être très drôle aussi.
Ah bah c'est souvent
désespérément drôle, mais beaucoup de textes qui ont trait aux chiens, sur le sort bien plus enviable réservé aux chiens, plus enviable que celui qu'on réserve à certains hommes, notamment le fabricant de testicules pour chiens castrés, pour que le chien ne soit pas traumatisé du manque. Et donc, c'est...
Bon, les obsessions de Jean-Paul Dubois sont anciennes, les chiens, voilà. Les maisons, les téléphones, les annuaires, les listes. Bon, effectivement,
il y a un motif qui court partout aussi quand même. Il y a un motif qui court partout quand même, qui est la fin du monde, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de ces Américains qui sont persuadés que la fin du monde va arriver. Il y en a un, il guette la fin du monde comme on attend le bus, je cite Dubois, avant de se réfugier dans son abri anti-atomique. Et chez Dubois, il y a un peu l'idée que l'Amérique est en notre avenir, avec tous ces tarés qui sont là-bas, qu'il a observés, qu'il a fréquentés, qu'il a touchés. La fin du monde peut arriver, quoi. Enfin, ou en tout cas, là, vraiment la fin d'un monde, quoi. Il y a l'idée d'une impasse, quoi. On arrive au bout de quelque chose avec tous ces dingues-là. Et ça court partout, j'ai l'impression.
Bah, oui, ça court partout autour de nous. Je m'en doutais un peu, on ne s'est pas vraiment disputé autour de Jean-Paul Dubois, mais nous avons loué son très grand talent. L'Amérique m'inquiète et m'inquiète. D'ailleurs, il restitue l'origine de ce titre aussi à la toute fin de ce volume. L'Amérique m'inquiète et autres récits, c'est dans la collection Ripley à l'Olivier.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute aujourd'hui en public à la librairie de Paris, place de Clichy. Nous parlerons des livres d'Anna Gavalda, Robin MacArthur, Anne-Laure Kerr. Mais tout d'abord, c'est à Hélène Bessette que nous allons nous intéresser. Alors, un auteur qu'on ne cesse de redécouvrir depuis que l'éditrice Laure Limongi a entrepris en 2006 de rééditer un certain nombre de ses romans. Tout d'abord aux éditions Léo Cher. Hélène Bessette a publié 13 romans chez Gallimard en 20 années d'exercice ou d'activité littéraire entre 1953 et 1973. D'autres sont restés inédits. Le nouvel Attila, jeune maison vaillante, publie l'intégrale de l'écrivain. L'écrivain, rappelons-le, lancé notamment par Raymond Queneau, hein, qui lui avait fait signer carrément un contrat pour 10 livres quand elle est entrée chez Gallimard, soutenue et admirée par Marguerite Duras, par Nathalie Sarraute et quelques autres, mortes pourtant en 2000, dans une très grande indifférence et un très grand dénuement. Musique de mystère, ça pourrait être la musique de la bande-annonce du film qui serait adapté très difficilement de 20 minutes de silence, qui reparaît donc aux nouvelles Attila. C'était le troisième roman publié par Hélène Bessette en 1955. Parce qu'on pourrait dire que Hélène Bessette s'essaye au polar, puisque c'est un fait divers, un crime qui est à l'origine de ce texte. On va en parler, mais alors quel polar ? Le concept de déconstruction n'avait pas encore été forgé par Derrida, que Bessette a déconstruit la langue, le récit, voire même les personnages. Il faudrait peut-être s'essayer à la lecture, je ne sais pas qui voudra se lancer, j'ai pris mon exemplaire, on ne sait jamais, parce qu'il faudrait faire entendre aussi du Hélène Bessette, mais ce n'est pas si simple. Il faudrait savoir où s'arrêter, où commencer. Elisabeth Philippe.
Oui, c'est une expérience de lecture très, très singulière, Hélène Bessette. C'est déjà une expérience visuelle très, très particulière, avec, avec des blancs, des jeux typographiques, des capitales, des retours à la ligne. Elle-même parlait de ses textes comme de romans poétiques. Donc visuellement, déjà, on a cette impression, on n'est pas face à un roman classique. Ensuite, il n'y a pas de narration linéaire. Alors certes, il y a cette intrigue qu'on peut résumer très rapidement. Un homme, un riche bourgeois, est retrouvé mort dans sa villa, la villa Monique. D'ailleurs, cette maison est quasiment humanisée par moments, ce qui donne aussi au roman un petit côté gothique. Et il y a donc deux suspects, l'épouse aux nombreux amants, et le fils de 15 ans. Mais ça, c'est vraiment c'est l'argument, ça tient en quelques lignes et finalement, c'est assez peu d'importance. Ce livre, moi, m'a fait penser au jeu le Cluedo. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Cluedo avec le colonel Moutarde.
J'ai joué hier, donc je m'en rappelle très bien.
Bien sûr. Le chandelier. Alors ici, il n'y a pas de colonel Moutarde, il n'y a pas de chandelier. Mais il y a une mademoiselle Rose, comme dans le jeu. C'est Rose Trémière, la bonne. Hélène Bessette, parce qu'il y a aussi pas mal d'humour qui parcourt ce livre, d'ironie. Hélène Bessette la qualifie de bonne. Et en fait, dans ce Cluedo, c'est un Cluedo qu'on aurait secoué très très fort qu'on aurait totalement désagrégé, puisque Hélène Bessette éparpille vraiment le genre policier façon puzzle, en fait.
On mêle
tous ces, puisqu'elle reprend tous les codes du roman policier et tous les clichés, et elle s'en amuse, notamment par exemple le cliché de la femme en chemise de nuit tragique, la chemise de nuit des soirs tragiques. Elle reprend l'expression plusieurs fois en haut des escaliers, totalement épleurée après la découverte du crime. Donc elle joue avec ces images, elle joue avec la présence du commissaire, la présence des reporters, mais avec cette phrase très singulière qu'est celle de Bessette, faite de répétition, un côté litanie, et qui vient souvent défier la logique et mettre en doute finalement les témoignages, mettre en doute la vérité. Et ce qu'elle interroge, au-delà de savoir qui a tué le propriétaire de la Villa Monique, c'est cette société post-Seconde Guerre mondiale, puisque le roman a été écrit en 1955, et dans le roman, il y a énormément d'allusions à la collaboration, à l'occupation. Tout ça n'est pas appuyé, mais ça parcourt le texte, encore une fois. Et c'est cette société, finalement, cette société bourgeoise, dont Ellen Bessette aussi moque les mœurs hypocrites, c'est cette société-là qu'elle désingue de façon extrêmement subtile, avec une ironie et un style qui n'appartient qu'à elle.
Ah oui, un style. Et alors, un découpage après une sorte de prologue de ce livre. Il y a effectivement le poème des données. Alors, j'en donne quelques-unes. Ça donne un exemple quand même. Le poème des données commence comme ça. Le revolver était dans l'auto. Donc là, on va à la ligne. Je ne vais pas le répéter à chaque fin de phrase, mais c'est le cas. Le revolver était dans l'auto. Le revolver n'était pas dans l'auto. Il était dissimulé derrière les livres dans la bibliothèque. Non, pardon, je m'excuse de vous démentir. Le revolver était dans l'armoire, caché dans une pile de draps. La lumière était coupée. La lumière n'était pas coupée, hurle la bonne qui s'appelle Rostrémière. Puis elle se rétracte. L'enfant avait ses chaussures. À 3 heures du matin, d'habitude, les enfants ne sont pas en chaussures. La mère et Rostrémière étaient habillées. À 3 heures du matin, on n'est pas habillé. Donc ça, c'est le poème des données. On trouvera plus loin le poème des questions. Avez-vous des bougies dans votre chambre? Pourquoi cet homme avait il justement une bougie dans sa chambre? Qu'est-ce que ce bâton à lessive? Quelles étaient les empreintes relevées sur le roman policier trouvé dans la chambre du père? Lors de la deuxième reconstitution, je passe, et nous aurons quand même le poème des solutions. Je ne pourrais pas que je les lise, non? Ben non, je ne vais pas les lire. Philippe Chevillé, sur Hélène Bessette, 20 minutes de silence. On n'a pas expliqué ce titre, mais il est important.
20 minutes de silence, c'est les 20 minutes entre le meurtre et le moment où il est déclaré.
Par la femme et le fils. Mais alors, comment fait ces 20 minutes de silence?
Absolument. Et cette histoire de déconstruction qui est évidemment déroutante pour un lecteur, ce qui est fascinant, c'est que le principe du roman poétique et sa poésie fait que finalement, une fois passé les premières pages, on peut être pris par le flou et pas être perdu. C'est-à-dire qu'une abstraction qui un peu figurative dans laquelle on se retrouve. Et moi, j'aime bien cette idée d'objets volants, de revolvers, de bougies qui changent de place, du criminel lui-même qui n'est pas toujours le même. On se demande s'il va pas y avoir à la fin une révélation. En fait, on tourne quand même autour du personnage du jeune homme. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière ces mots, derrière ce jeu, il y a d'abord une poésie très très forte. Alors, vous avez lu des extraits. Moi, je voudrais bien lire un petit quand même. Parce que
je vous en prie. Je me suis lancé parce que vous voyez qu'il n'y avait pas de candidat, mais allez-y.
Tu ne vas pas pleurer pour rien dans la rue, dans les autres, quand tu es dans les autres et que les jours baissent et que l'année baisse et que ce mois échoue contre novembre dans une odeur de brouillard et de lumière clignotante. On pleure dans la rue quand on a un grand chagrin. Il y a beaucoup de ces moments où tout d'un coup on quitte un peu l'histoire et des moments purement poétiques. Et derrière cette poésie, il y a aussi cet élément très fort d'explosion de la famille bourgeoise avec le personnage du père qui est le personnage de tutélaire cruel, la femme qui est délaissée, opprimée, mais qui a aussi un rôle un peu pervers dans l'histoire, et ce jeune homme qui finalement devient presque un criminel à la Genève au fur et à mesure. Il prend une dimension celui qui tue le père prend tout d'un coup une dimension lui aussi poétique extrêmement forte. Donc par moments je me suis dit ce jeu incantatoire répétitif va peut-être me lasser, et puis finalement au début de chaque nouvelle partie j'étais repris et j'ai passé un moment de littérature et de poésie finalement très fort, et donc c'est une belle découverte, parce que moi je ne connaissais pas Hélène Bessette avant de lire cet ouvrage.
20 minutes de silence. Grégoire Leménager.
Moi je ne connaissais pas non plus Hélène Bessette, enfin, j'en avais beaucoup entendu parler et ça m'intéressait, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de découvrir ça.
Je vous en prie.
Fallait pas que ce soit plus long quand même, hein. Franchement. Non, c'est bien. Tout ce que vous avez dit, c'est juste. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un enquêteur qui essaye de reconstituer un crime et qui se gratte la tête très très fort parce qu'il y a des trucs qui se télescopent, qui collent pas, et qu'effectivement le revolver il était là ou là, et effectivement à tel moment il était là, mais à tel moment il était là, et voilà. Donc ça c'est assez bien fichu. Il y a effectivement des passages lyriques et le début est très beau sur les larmes dans la rue là. Je trouve ça très beau. Il y a quelque chose de très drôle aussi. On comprend pourquoi Queneau aimait ce que faisait cette femme avec le bourgeois qui possède 100 millions à la banque, enfin, ou sur son compte ou dans son coffre. Et puis il y a quand même quelque chose qui est très puissant et qui fait que c'est pas seulement un exercice de style, c'est pas seulement un jeu avec des codes. Il y a vraiment une rage à la Genêt qui est très très forte. Enfin, et moi dans la la force subversive m'a surpris au bout d'un moment. C'est-à-dire que vraiment, elle le pose dès le début, d'ailleurs, on n'y fait pas attention, mais elle dit le criminel était la victime était le criminel, et le livre va opérer une espèce de chassé-croisé comme ça, et en gros, elle donne raison au gamin qui a probablement tué son père, au moment où on croit que le gamin a tué son père, donc, parce qu'il il a tellement de circonstances atténuantes que...
Oui, c'est très beau, c'est d'ailleurs...
C'est vraiment un livre qui est contre les parents, contre les flics, contre l'ordre social, et il y a quelque chose de très... voilà, d'un peu simpliste presque, mais
bon, on est quand même en 55 aussi quand elle écrit ça, l'MB7. N'oublions pas, vous faites référence, j'avais noté, alors, c'est une page où il n'y a que deux lignes. Mm. La victime est vivante, le coupable est mort. Ah, page suivante, tout est pour le mieux, justice est faite. Et pourquoi faut-il à tout prix faire justice ? La page suivante, c'est la victime est le coupable est EST, hein, bien sûr. Le coupable et la victime. Mmh. Voilà. Et là, on peut rentrer dans le poème des données, mais c'est ce prologue. Elisabeth Philippe ?
Oui, non, moi, ça me fait penser, vous parliez de Genet, ça me fait penser aussi à Foucault, à Pierre Rivière, pardon, ce que Foucault appelait la bataille des discours, justement, et on a cette bataille des discours autour de qui est coupable, qui est victime, sur l'emprisonnement aussi. Il y a des pages très belles sur ce gamin de 15 ans qui se retrouve en prison, et c'est vrai de se dire, ce texte a écrit en 55, je trouve ça assez, assez fou, et elle parle également d'avortement, et d'ailleurs, le texte qui a suivi celui-ci, publié en 56, les filles, alors je ne sais pas comment on prononce ça, Lisa, je ne sais pas, mais en tout cas ce texte, le texte qui a suivi 20 interdit. Minutes de silence a été interdit, je crois, pour outrage aux bonnes mœurs. Il a été censuré.
Alors certes, on a monté cette émission un peu vite, hein, il faut dire les coulisses de l'émission, donc Raphaël Léris et Alexandra Schwarzbrunn n'ont pas eu le temps de lire ce livre-là de Hélène Bessette. Pour autant, vous avez déjà lu des ouvrages de Hélène Bessette, Raphaël Léris?
Moi, j'ai lu Si et Ida ou le délire quand vous ils sont situé... reparus chez Laurent Longy.
Vous la situez comment, cette auteure?
Alors, ce sont des souvenirs assez flous, parce que quand même l'intrigue a tendance à... l'intrigue a quand même tendance à disparaître complètement pour laisser... essentiellement une impression de chaos génial.
Chaos génial, voilà. Bon, c'est pas mal comme résumé pour Hélène Bessette. 20 minutes de silence aux nouvelles Attila.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et à 7h, dans cette émission spéciale enregistrée en public à la librairie de Paris, Place de Clichy, un petit solo d'Alexandra Schwarzbrunn, puisqu'on reste dans le polar. Vous avez, on a préparé cette émission, on a tous échangé quel livre en commun on avait. Très peu. Donc, du coup, c'est un sommaire un peu complexe. Mais vous avez fortement attiré mon attention, Alexandra, sur La Daronne d'Anne-Laure Kerr. C'est un livre qui est publié chez Métellier. Donc, j'ai regardé un petit peu Anne-Laure Kerr. 5 ou 6e roman, et j'avoue que je ne la connaissais pas, je ne l'ai jamais lu, mais vous m'avez donné très envie. J'aimerais que vous continuiez publiquement. Pourquoi faut-il lire La Daronne ?
La Daronne, alors parce que c'est une histoire d'une mère célibataire parisienne qui rame pour nourrir elle-même et sa vieille mère malade, et qui est traductrice de l'arabe pour la Brigade des Stupes, donc déjà je vous laisse imaginer le truc, et qui devient daronne de la drogue, c'est-à-dire, vous savez, la daronne, c'est la mère, la patronne, et qui devient daronne de la drogue pour pouvoir justement payer la maison de retraite de sa vieille mère atteinte de démence. Mais c'est à mourir de rire. Et alors, moi, j'aime pas les... C'est pas du tout potache, hein. C'est pas du tout... Anne-Laure Kerr, qui est avocate de formation, a une langue, une écriture extraordinaire, parce que elle est très resserrée, elle est très drôle, elle se moque à la fois... Il y a beaucoup d'autodérision, mais elle se moque à la fois de la société, de nous tous, d'elle-même. Et elle vous embarque dans une histoire incroyable. Et alors, ce qui est dingue, c'est que c'est un polar... Et pourtant, l'intrigue, à la limite, importe peu. C'est son univers. Elle charrie un univers à elle seule, qui est très particulier, qui ne ressemble à rien d'autre. Rien d'autre de ce qu'on a pu lire cette année dans Le Noir. Et c'est vraiment une femme, en plus, une femme engagée, une femme de combat. Elle est très engagée pour l'égalité pour tous. Elle est très féministe, l'égalité homme-femme. Et ça se sent sans que ce soit pesant du tout dans son écriture. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout moralisatrice. Donc je vous le conseille à tous. C'est pas gros. Ça se glisse dans une poche ou une valise. J'ai pas de part chez Métellier, je le dis tout de suite, hein, puisque c'est Métellier. Et, mais vraiment, vraiment, il faut le lire parce que c'est un moment, on passe un moment formidable.
Et vous l'avez découverte avec ce livre aussi, Anne Lorquer, ou vous l'avez déjà lu des précédents?
Non, alors je n'avais pas lu son précédent Commis d'Office, qui avait fait beaucoup de bruit en 2004, hein, qui avait reçu d'ailleurs, je crois, un ou des prix. Et donc, alors elle avait pris du temps avant de lire, avant de republier un ouvrage, et elle a bien fait, parce que vraiment, celui-là est totalement abouti. Et voilà, donc c'était la première fois que je la lisais vraiment, mais j'en avais beaucoup entendu parler, et je dois dire que maintenant, j'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience le prochain.
Elisabeth Philippe, vous avez jeté un œil sur Anne Lorquer.
C'est effectivement très efficace, on est tout de suite pris dans cette intrigue un peu abracadabrantesque par moment. Il y a quand même des invraisemblances, donc elle écoute des conversations d'une famille de dealers du Maroc, et parallèlement, elle va donc rendre visite à sa vieille mère qui est hospitalisée dans une maison de retraite sordide, et il se trouve que l'une des infirmières de cette maison de retraite est la mère du dealer qu'elle écoute.
Mais vous savez que la vie a beaucoup plus d'imagination que la fiction, donc
mais finalement,
moi j'y crois,
ça importe assez peu parce que c'est porté par ses... Elle a le sens de la formule, c'est assez marrant, très vivant. Ça fait penser à la série Weed, je crois, pareil, où cette mère, pour subvenir à ses besoins, se lance dans le trafic de drogue. Non, c'est un... je le qualifierais même pas de polar, je crois.
C'est un objet non identifié, mais qui mérite vraiment qu'on s'y arrête.
Ben voilà pourquoi on s'était arrêté aussi dans cette émission de la dispute. La Daronne d'Anne Lorquer, publiée chez Métellier. On aura un autre solo un petit peu plus tard avec Philippe Chevillier, mais on va ouvrir un nouveau chapitre dans cette dispute gourmande en livre. Alors c'est presque à l'unanimité que vous avez lu le nouveau recueil de nouvelles signé Anna Gavalda, réuni sous le titre Fendre l'armure, publié au Dilettante. Cette nouvelle écrite à la première personne du singulier. Je vous ai prévenu, quand nous avons choisi ce livre, il n'était pas question que vous soyez unanimement critique de façon négative, sinon c'est pas très intéressant. Vous avez relevé le défi, on va bien voir.
Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivie pas à pas. La garce, que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va t'emporter ailleurs, ta triste gueule, ta l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux en.
Allez, on va ouvrir le bal cette fois avec Philippe Chevillier, tiens, pour la peine. Peut-être me permettre de vous demander si vous aviez déjà lu un ouvrage d'Anna Gavalda dans votre vie de critique littéraire. Rappelons que c'est un auteur qui vend des millions, qui a vendu des millions d'exemplaires depuis le premier livre paru, c'était « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part » en 99. Je n'ai pas de problème à dire que j'avais reçu cet auteur à la sortie de ce livre sur l'antenne de France Culture, parce que voilà, j'avais été sensible à cette nouvelle plume. Et vous, Philippe ?
Je crois que la seule chose que j'avais lue, c'était, il me semble qu'elle a fait la traduction de Stoner.
Hein, absolument. Roman,
voilà, et c'était...
Vous êtes tellement chic.
Du coup, c'était un roman étranger. C'est vrai que c'est un peu ma...
C'est votre spécialité.
Un peu ma spécialité. Alors voilà, j'avais pas.
Donc c'est une vraie première pour
vous. Une
vraie
première.
Alors.
Alors bah, je trouve que cet ouvrage, ce recueil de cette nouvelle, alors commence très mal et finit pas très bien non plus d'ailleurs. Mais donc alors je m'explique. Je trouve que la première nouvelle, puisqu'on se plonge dedans, l'histoire de cette petite banlieusarde qui parle très jeune et avec un langage un peu vulgaire, qui tombe amoureuse d'un poète, ça fait vraiment cliché. C'est vraiment, je me suis dit, mais où je suis tombé. Ensuite, je trouve que les nouvelles sont plutôt voilà, bien construites, elle a du savoir-faire. Ce qui me gêne le plus, c'est que je trouve que les intrigues sont faibles. C'est-à-dire que, par exemple, la deuxième nouvelle, c'est le Maquisard, nous raconte l'histoire de deux femmes qui vont se retrouver une nuit pour faire des confessions. Et la deuxième femme, l'inconnue, on sent qu'elle a quelque chose de terrible à avouer. Et qu'est-ce qu'elle avoue ? Bon, bah, qu'elle vit avec un homme marié depuis 4 ans. Enfin, je caricature un peu, mais du coup, on se dit, ah bon, c'est seulement ça. Après, c'est.
Vous n'avez pas tout raconté, Philippe, hein ?
Non.
Non.
Alors, mais il y a l'histoire de Sidon.
Non, parce qu'il y a que 7 nouvelles. Si vous les racontez tous.
Juste une dernière. Quelquefois, ça
mais envoyez vos courriels directement aux Échos. Hein. Ça ne passera pas par la boîte de France Culture.
Juste une petite, c'est celle Point de vie où on voit ce père qui est tout d'un coup face à son fils qui a commis quelque chose de pas très joli vis-à-vis d'un petit camarade.
N'en dites pas plus.
Et à la fin, on va découvrir que la raison secrète.
Et 3 petits points.
Ce n'est pas grand-chose.
Voilà. Bon, allez.
Et alors, donc, du coup, bon, je vais en sauver une. Et pourtant, c'est celle qui est plus dans le pathos, qu'on pourrait trouver peut-être la plus. C'est celle sur l'histoire du chien, là,
Oui, Alexandra Charbonne.
C'est celle qui m'a beaucoup marqué aussi. J'aime pas les animaux, donc c'est pas l'histoire.
Ah,
c'est pas
ce. C'est présentez Elisabeth Philippe, ça, défenseuse des chats. Chien, donc, c'est normal. C'est pas que. Non, bon, on vous en parlerait plus tard. Non, celle du chien. Quand même,
ayant
fait une revue de presse sur ce livre, c'est celle qui est généralement sauvée par les lecteurs d'Anna Gavalda.
Bah, moi, je ne dirai rien sur cette nouvelle, mais celle-là, elle m'a touché. Globalement, ce qui fait, je trouve, la force d'une nouvelle, alors il peut y avoir des nouvelles qui sont un peu poétiques, des instantanées, impressionnistes. Moi, c'est pas vraiment mon truc. Je préfère quand c'est des micro-romans. Visiblement, elle veut faire des micro-romans, mais pour le coup, il faut que des personnages qui soient passionnants, des intrigues fortes, et surtout, je veux bien que ça soit des histoires banales du quotidien en France aujourd'hui, mais que ça nous dise quelque chose sur le monde, sans vouloir être prétentieux, mais que ça nous laisse une impression. Et donc, à la fin, bon, bah, je l'ai lu, c'est pas désagréable, mais ça m'a pas laissé une forte impression.
Voilà. Bon, Grégoire Leménager, Anna Gavalda, vous avez dit je suis capable d'en dire du bien. Bah, prouvez-le.
J'ai dit ça, moi.
Ouais, je révèle un peu les coulisses. Bravo.
Non, mais je veux pas en dire que du mal. C'est plutôt ça. Parce que, effectivement, moi, je trouve qu'elle construit plutôt bien ses histoires. Voilà, elle a un petit sens de la chute, ce qui est important pour faire des nouvelles. Elle a quelques jolies idées. Je pense exactement le contraire de vous. C'est-à-dire que cette histoire de chien, moi, m'a semblé insupportable, précisément parce que le type qui emmène son chien se faire piquer a vécu une véritable tragédie, mais vraiment un truc très très dur. Et donc, elle en rajoute, et ça devient effectivement trop tire-larme pour moi, qui ai un cœur sec. En revanche, je trouve que les autres, et les moments où on se rend compte qu'en fait, cette dame se rend très malheureuse, précisément parce qu'elle est amoureuse, elle est banalement amoureuse d'un homme marié. Je trouve que ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que elle montre bien que des petites choses peuvent aussi provoquer des sentiments importants chez des gens. Et ça j'aime bien. Et puis alors le gros bémol, c'est quand même la manière dont elle fait parler ses personnages et la manière dont elle fait entendre des voix. C'est-à-dire que c'est toujours mal accordé son violon. On a l'impression que, je sais pas, que c'est mal doublé ou qu'elle change de tonalité tout le temps. Et c'est particulièrement net, effectivement, dans la première nouvelle qui de ce point de vue-là, est catastrophique parce que la fille qui utilise un langage de banlieue, soi-disant de banlieue, ça marche pas. Il y a des mots d'argot d'il y a 30 ans mélangés avec des mots d'argot d'aujourd'hui et ça passe pas. Et ça s'oppose aux alexandrins ridicules que profère le poète qu'elle a rencontré dans les beaux quartiers. Pour bien montrer que tout oppose ces individus. Voilà, donc il y a du bon et du mauvais, quoi.
Bon, on va dire que c'était un peu pondéré. Alexandra Charles-Bond.
Alors, moi, j'avais lu Anna Gavalda il y a quelques années, mais voilà, ça m'avait tellement peu laissé de souvenirs que je ne me souviens même plus du titre de ce recueil. Moi, j'avais mis Anna Gavalda avec sur le même rayon que Philippe Delerme, c'est-à-dire des auteurs qui écrivent des suites de petits riens, et à force de petits riens, ça finit par être un gros rien, et ça m'ennuie à périr. Et là, donc, j'ai lu ce recueil, et j'ai aimé. J'ai aimé parce que, contrairement à ce que dit Philippe Chevillier, je trouve que ça dit quelque chose. Et ça dit quelque chose, notamment de notre époque. Ça parle beaucoup de solitude. beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas moi
c'est
ce que j'avais lu.
C'est son thème depuis 20 ans.
Ce que j'avais lu, oui, mais ce que j'avais lu il y a quelques années, c'était fait sous le mode un peu de la légèreté. Là, je trouve qu'il y a vraiment des passages assez bouleversants. Alors, je suis désolée, j'ai été bouleversée par cette histoire de chien. Je ne sais pas pourquoi, mais
c'est votre
en effet,
droit, parce... Alexandra. Voilà. Vous avez tout à fait le droit et puis vous avez le droit de l'exprimer.
Il raconte une telle solitude et je suis pas d'accord. Justement, cet homme qui conduit ce chien chez le vétérinaire pour le faire piquer et qui en effet a vécu un énorme drame personnel, ce chien c'est devenu le seul être au monde qui lui apporte.
Enfin, on avait compris, c'est ça que dit Grégoire le Ménager.
Et donc, non, d'abord, c'est beaucoup travaillé, c'est très travaillé, elle bosse, on sent qu'elle a bossé sur ce... Et peut-être, alors c'est peut-être le seul
oui,
bémol.
Même, oui.
Ah oui, mais c'est pas... Bah non, c'est,
peut,
je suis peut, désolée.
On peut demander à un auteur
si
de travailler, non?
Non, c'est pas si... Bah oui, mais malheureusement, quand on lit beaucoup, on se rend compte que c'est pas évident. Et donc, elle a beaucoup bossé, ses chutes sont assez bonnes. C'est-à-dire qu'en général, il y a toujours une... voilà, on est un peu dérouté par la fin. Et puis, ça dit quand même beaucoup de choses de nous, des autres. Alors, elle va exactement là où elle sait qu'on a envie de lire, hein, sur la solitude, sur la société. Elle est très forte. Elle est très forte, on dirait qu'elle a fait une étude de société pour savoir, il y a en effet la fille de banlieue, il y a le pauvre homme qui a perdu son enfant, tout y est, tous les ingrédients y sont, mais franchement, je trouve que ça se lit très agréable. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, je préfère Anne Lorquer, mais j'ai bien aimé celui-ci.
Bon, Elisabeth Philippe, à entendre quelques-uns des compliments.
Moi, j'ai jamais promis d'en dire du bien.
Non, mais voilà, c'est respecté. Nous avons du bien et à pondérer, vous pouvez y aller.
Non, il y a certaines nouvelles. J'ai eu l'impression de voir la maman des triplés. Vous vous souvenez, les triplés, là, ces petits enfants bourgeois des beaux quartiers déguisés en Virginie Despentes. C'est pas possible, la première nouvelle, mais c'est stupéfiant, je veux dire. Cette espèce d'argot, soi-disant, de banlieue. Alors, et pareil, le pauvre homme qui perd son chien, il est chauffeur routier, donc forcément, il dit je vais au vétérinaire. Et puis, il dit c'te bestiaux. Sans parler de l'imitation très très Michel Leeb dans la dernière nouvelle, puisque c'est un noir qui vient réveiller le charmant narrateur de cette dernière nouvelle c'est une catastrophe.
Vous résistez à la tentation de la citation à charge parce que vous savez que c'est interdit,
j'y
vous auriez un blâme.
Et parce que j'aurais honte de la prononcer de
parce que moi-même j'en avais repéré quelques-unes mais je vais pas m'autoriser.
Non, et alors Alexandra disait qu'elle avait beaucoup travaillé. Oui, je pense qu'elle a fait une grosse étude des Pokémon parce que les Pokémon sont omniprésents. Alors elle les connaît tous, on a tous leurs noms. Moi je connaissais assez peu, donc là-dessus je suis plutôt contente. Effectivement, ça m'a appris pas mal de choses sur les Pokémon parce que je connaissais que Pikachu, donc là j'ai un peu complété. Enfin, moi, je peux. Et puis, alors, les chutes, mais pardon, mais quelle chute! Enfin, la nouvelle Happy Meal, mais c'est une catastrophe.
Non, ça, c'est horrible. Horrible. On préfère l'oublier, celle-ci.
Plus gnangnan que cette chute, mais.
Ouais, elle n'est pas du tout surprenante, par ailleurs,
mais
celle de Happy Meal.
C'est 5 pages, c'est quand même une grande qualité.
Oui, ou une quinzaine.
C'est déjà
quoi.
Trop. Enfin, c'est plus long que le temps qu'on met à manger un Happy Meal. Enfin, non, ça va pas du tout. Et puis,
c'est
non,
forcément dégoûtant
style,
de rentrer dans un McDonald's.
Le style, alors, on dirait, je pense qu'elle a un grand amour pour le dictionnaire des synonymes, puisqu'elle aime beaucoup les énumérations de synonymes. Donc, c'est bien, ça remplit quand on sait plus trop quoi dire, qu'on a plus de Pokémon en stock, on met des synonymes. Les métaphores filées. Donc, puisque la maquisarde, donc dans la nouvelle qui porte ce titre, est fille de militaire. Alors, on a le droit à tout le vocabulaire de l'armée, parce que c'est du style. Ah non, pardon, mais.
Vous avez bien travaillé, vous aussi. Il n'y a pas Kanaga Valda qui travaille bien, mais les plus perspicaces ont remarqué que Raphaël Deris n'a pas pris la parole. Mais c'est peut-être d'avoir lu Éric Chevillard dans Le Monde des Livres qui vous a ôté l'envie.
C'est-à-dire que ça me donne envie de lire Éric Chevillard toute ma vie, tout le temps.
C'est lui qui a chroniqué le dernier livre dont nous parlons dans la galerie.
Voilà, et du coup, on a droit à la citation de qualité d'Éric Chevillard.
Alors, il faut. Vous l'avez
là, je l'ai en tête, car je connais toutes les œuvres de notre feuilletoniste par cœur.
Allez-y, donc, ce texte, la chute.
Parce qu'il parle du pathos insensé de ce texte, et puis il dit que quand même, elle peut être assez bonne dans une forme de retenue. Et donc, la chute de son texte, c'est.
Vous la connaissez
par cœur ? Ah non, allez-y, si vous l'avez souhaité.
Non, lisez-la.
Ah, d'accord.
Si vous voulez.
Oui, Anna Gavalda est tellement meilleure dans la retenue que l'on ne peut s'empêcher de penser qu'elle serait excellente si elle s'abstenait tout à fait.
Bon, ça, c'est signé Eric Chevillard. C'est comme on l'aime aussi, parfois Bachar, mais quand il aime beaucoup, hein, Eric Chevillard. Grégoire, du bon et du moins bon, mais qu'est-ce que vous retenez dans le bon? Parce que il faudrait reprendre la rubrique pour le coup de Libé, comment ça marche. Pourquoi ça marche autant? Là, on fait coucou à Mathieu Lindon, mais pourquoi ça marche autant? Anna Gavalda, on est là, on rit un peu, on regarde ça parfois un peu de haut.
Non, mais ce qui marche, c'est qu'elle elle prétend, et quelquefois elle y arrive, à restituer quelque chose qui est très quotidien, qui ressemble à notre quotidien, avec une forme de minimalisme que pour lequel moi je l'applaudis plutôt. Enfin, justement, son côté Philippe Delerme, pour moi, c'est pas rédhibitoire. Et au contraire, elle est meilleure quand elle parle. Le type qui va faire piquer son chien, s'il était seulement malheureux parce qu'il va faire piquer son chien, je trouverais ça peut-être formidable. Là, il se trouve que non seulement il est malheureux parce qu'il va faire piquer son chien, mais il est malheureux parce que faire piquer son chien lui rappelle un truc qui est infiniment plus terrible. Et c'est là que je trouve qu'elle en fait trop.
Vous préférez le Happy Meal, vous?
Le Happy Meal, je l'ai bien aimé parce que ça fait une petite récréation au milieu, ça fait 5 pages et voilà. Je pense que si ma fille, qui a 12 ans, avait écrit cette rédaction, j'aurais été super fier d'elle.
C'est vous le plus vache.
Celle-là, pour le coup, on voit qu'elle l'a fait.
Je croyais que vous auriez été capable de l'écrire pour votre fille.
Elle a fait ça pour s'amuser. On peut pas juger le recueil sur cette petite nouvelle-là qui est au milieu glissée comme ça, comme une petite friandise.
Alors pourquoi ça marche et comment ça marche selon vous, Alexandra Charles? Bon, oui, vous qui avez été sensible.
Je crois que Grégoire l'a bien raconté. Ça parle de nous, de notre quotidien, d'une certaine façon. Ça nous parle tout de suite. C'est des histoires qui nous parlent tout de suite. En effet, je viens juste de me souvenir, parce que depuis ça fait 10 minutes que je me dis, mais c'est quoi cette histoire de Happy Meal? Et je viens juste
c'est un
de
monsieur
souvenir.
Qui emmène une jeune fille
charmant.
Un McDonald's. Il est absolument horrifié. Il dit que c'est horrible de rentrer dans un McDo, que ça pue le grillon. Enfin, il y a toujours quand même un regard de classe qui est quand même très étrange aussi.
Utiliser les mots à ce point en parlant des slogans du McDo.
Ouais.
Le problème, c'est qu'elle fait un peu ça, justement, avec quand elle utilise les synonymes de manière.
Non, je suis en train de regarder. Vous vous souvenez maintenant?
Ça y est, non, mais ça m'est revenu. Et j'avoue que la chute, je m'y attendais pas.
Bon, vous avez été.
Mais je suis peut-être une bonne lectrice.
Très bienveillante.
Ou peut-être que je suis très fatiguée et que ça m'a beaucoup reposé de lire ce recueil de textes. Et franchement, on passe un moment pas désagréable. Alors je comprends, c'est vrai que les deux premières, la première histoire, les deux premières pages, j'ai vraiment eu envie de jeter le bouquin par terre.
D'accord.
Et après, figurez-vous qu'après, je me suis fait embarquer par le truc et ça m'a même fait beaucoup rire à certains moments. Mais je dois vraiment être très très fatiguée.
Elisabeth, vous résistez plus là, je sens que vous ouvrez le livre.
Non,
pour le relire.
Ça. Pour le relire ?
Oui, c'est ça.
Non,
tout de suite. Philippe Chevillet, vous relirez Alain Gavalda ?
Tout est dit. Pourquoi pas, on verra. Bon. Si on me le demande.
Et Raphaël Léris, pour terminer, vous avez déjà lu des livres d'Anna Gavalda?
Une histoire d'Anne dont j'ai tout oublié.
Ouais,
à part
ça,
la... Voilà, Billy, bravo Elisabeth, qui mène une très belle veille sur les animaux d'Anna Gavalda. Ça me laisse vraiment un souvenir de terreur face à autant de une langue aussi démente,
démente.
Enfin, un rapport au cliché aussi fou.
D'accord. Voilà. Bon, ça me donne presque envie, hein. Ils vont le mettre sur le bandeau aux dilettantes. Fendre l'armure, en tout cas, c'est le titre de ce nouveau recueil de nouvelles signé Anna Gavalda, donc aux dilettantes.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Philippe Chevillet, comme annoncé, un dernier solo pour finir la saison, car vous aviez envie de partager votre enthousiasme pour le livre de Robin MacArthur, Le cœur sauvage, publié chez Belfond, une traduction de France Camus Pichon. Je ne sais rien de Robin MacArthur, à vrai dire.
C'est chez Albin Michel.
J'ai dit quoi? Oh là là. Albin Michel, je répète Albin Michel, comme ça je le dis plusieurs fois.
Non, c'est normal.
C'est Terre d'Amérique en plus, c'est pas n'importe quoi.
C'est normal qu'on la connaisse pas, parce que je pense que c'est le premier ouvrage, si je ne m'abuse. Le recueil de nouvelles, c'est un petit peu ce qu'on voit souvent en Amérique, c'est-à-dire les nouvelles qui sont collectées, qui font un livre, et puis après il y aura le roman. J'imagine que ça va se passer comme ça. Elle est très douée, c'est 11 nouvelles. Qui s'entrecroisent, un puzzle qui se répondent en écho. Ça se passe dans le Vermont, d'où elle est née. Et c'est des destins de femmes de tous âges. Il y a des adolescentes, il y a des femmes plus âgées. Là, on a des vrais personnages dans leur solitude. Et toutes ces histoires qui se passent parfois à des périodes différentes racontent en fait 50 ans d'Amérique. On est dans la guerre du Vietnam qui fauche les garçons. On est aussi dans la guerre d'Irak qui fauche les garçons. On a le racisme qui, de la part de petits blancs qui n'ont jamais vu de noirs de leur vie, qui commencent à voir des immigrants dans la ville noire et qui du coup les aiment pas. On voit des femmes qui aiment, qui sont trahies. On voit des femmes qui meurent. Et il y a ce paysage qui est très beau du Vermont, ce coin perdu, entre qui serait presque un paradis perdu, mais qui en fait a un petit côté infernal aussi, à cause de cette solitude, de cette violence qui a parfois larvé. Et moi, à la fin de chaque nouvelle, pour le coup, j'avais les larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'il y a une intensité, une force dans ces mini-romans qui constituent un ensemble qui vraiment sont bouleversés. Je pense que c'est un livre à emmener en vacances. C'est moins sinistre que les nouvelles, que les chroniques de Jean-Paul Dubois, parce qu'il y a quand même quelques lumières. Et c'est une Amérique aussi profonde et profondément attachante. Robin MacArthur, elle a fait aussi un groupe de folk. Avec son copain ou son mari.
Ça, c'est inévitable, hélas, mais bon.
Et non, mais c'est pas mal parce que du coup, il y a la bande son.
Tout écrivain, un groupe de folk maintenant, non?
Ouais, il y a la bande son et bon, on a du Patti Smith, Don Young qui revient à différentes époques et c'est vrai que bon, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup touché et bon. Que je vous recommande.
Le cœur sauvage, publié chez Albin Michel, traduction France, Camus. Pichon, quelques secondes, tiens, pour le dernier tour de table imprévu. Alors, j'hésitais entre le livre à emporter pour l'été, pour faire ça, ou le livre que vous attendez le plus de la rentrée pour faire un peu de teasing. Raphaël Léris.
Je peux faire plutôt le livre à emporter, parce que c'est plus concernant et au moins on va être très concernant.
Très bien, en plus on est dans une librairie, donc les gens pourront partir avec.
Voilà, c'est un livre que vous avez évoqué à la dispute, c'est de Viviane Gornick, Attachement féroce. Un livre magnifique, une fille et sa mère qui marchent dans les rues de New York. C'est la seule manière qu'elles ont de pouvoir être au même endroit et de se parler. Elles arpentent les rues, elles arpentent leur histoire. Il y a des nouveaux détails qui surgissent en permanence. C'est d'une subtilité, d'une intelligence, d'un sens du sarcasme sidérant. Et pour moi, c'est une des plus belles lectures de l'année.
Viviane Gornick, en effet. Alexandra Chérivage, oui. Alexandra Schwarzbrunn a un conseil.
Je vais en citer deux très rapidement. Douleur de Zeruya Chalef, si vous ne l'avez pas lu. Ouais. C'est vraiment un des plus beaux livres de l'année. C'est sublime, une histoire de femme formidable. Et... comme j'ai une petite prédilection pour le noir, un tout petit roman noir qui s'appelle Albuquerque, de Dominique Format à la Manufacture de Livres. C'est tout petit, alors c'est encore plus petit, ça se glisse encore mieux dans une poche, ça coûte pas très cher, et c'est une écriture ciselée, très noire, sans gras, c'est formidable.
Elisabeth Philippe.
Alors oui, deux conseils aussi pour cet été. Si vous voulez vous faire des amis sur la plage, je vous conseille I Love Dick de Chris Kraus, parce qu'avec cette couverture vert fluo et I Love Dick écrit en rose, je pense que vous passerez pas inaperçu. Et surtout, le livre est formidable. C'est donc le livre d'une cette artiste Chris Kraus qui raconte son obsession pour un homme qu'elle rencontre lors d'une soirée
et qui s'appelle Richard. Précisons-le.
Qui s'appelle Richard. Donc Dick. Voilà, c'est la subtilité du titre et c'est vraiment une plongée au cœur des arts du désir féminin, mais fait avec beaucoup d'humour, d'intelligence. Et l'autre livre que j'aimerais conseiller, c'est le manuel à l'usage des femmes de ménage de Lucia Berlin chez Grasset. Donc le I Love Dick est chez Flammarion. Et le manuel à l'usage des femmes de ménage de Lucia Berlin, ce sont des nouvelles absolument prodigieuses, nourries de la vie de son auteur, une vie entre l'opulence et la dèche. Et c'est formidable.
Et on en a parlé aussi dans la dispute. Ouais. Et 4 secondes et demie pour Grégoire Leménager.
Ça tombe bien, vous en avez parlé dans la dispute aussi, je crois. C'est L'ordre du jour d'Éric Vuillard qui raconte l'Anschluss.
Encore voilà. Plus petit, encore
c'est,
plus les petites
c'est
poches.
C'est petit, mais c'est dense.
C'est
hein,
immense.
C'est... Et on peut le relire, je pense.
Ah oui.
Non, c'est très bien.
Excellent conseil. Et on conclut en quatrième vitesse avec Justine Dibling qui nous a rejoint pour le jeu de la dispute. Rappel de la question-réponse du jeu d'hier, Justine.
La question était dans quel film Jun Ho Bong raconte l'histoire d'une mère qui, par amour, va tout faire pour sauver son fils accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et la réponse était Mother.
Et ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition aux couleurs. C'est au Musée des Arts Déco et du Design de Bordeaux jusqu'au 5 novembre. La question.
Quel peintre a dit « La couleur est la touche, l'œil est le marteau, l'âme est le piano aux cordes nombreuses, l'artiste est la main qui met l'âme humaine en vibration ».
Vous repasserez le podcast après la diffusion de cette émission. Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Merci à la librairie de Paris qui nous a si bien accueillis, accueilli France Culture toute la journée. Merci bien sûr à Elisabeth Philippe, à Raphaël Léris, à Alexandra Schwarzbrod, Philippe Chevillier, Grégoire Leménager pour une dispute en grand nombre donc ce soir. Merci au Monde, à Libération et au Nouvel Observateur, nos partenaires aussi, non à l'Obs, pardon. À l'Obs, nos partenaires en cette journée, mais c'était un clin d'œil aussi pour Jean-Paul Dubois, bien sûr. Demain, on terminera en musique la saison de la dispute avec Marie Audroux et Emmanuel Giuliani. On parlera de l'Othello de Verdi en ce moment à Londres, du triomphe du temps et du Zingano. Je me rappelle jamais ce que ça veut dire, Zingano. C'est le Handel qui est sorti en DVD et Blu-ray chez Erato, et un CD de Brahms, la belle Maguelone. Belle fin de soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction. Mais tout de suite, France Culture pour le livre, Christophe Onodibio.